Pour commencer cette année, on rejoint notre vulgarisateur scientifique, Philippe Ducharme. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Élisane. Comment vas-tu?
Ça va bien, et vous?
Très, très bien. Je te remercie. Alors, ça fait bien plaisir de poursuivre avec toi les chroniques de bonnes nouvelles scientifiques.
Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aussi cette année. Donc, vous commencez en nous parlant d'un traitement à base d'ARN pour lutter contre le cancer du poumon.
Tout à fait. Alors, l'ARN messager, hein, dans le fond, on entend parler depuis la pandémie. Hein, c'est un terme qui est devenu très familier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN messager, là, ça a plus d'un tour dans son sac. Autrement dit, c'est une technologie qui peut servir à d'autres fins thérapeutiques. Ça, c'est très intéressant. Et dans ce contexte-là, ben, je veux vous parler d'une recherche qui se fait présentement, dirigée par l'équipe de recherche de Jonathan Spicer, le docteur Jonathan Spicer. C'est un chercheur au Centre universitaire de santé McGill. Puis, ben, ce qu'il fait, comme tu l'as mentionné, en fait, il a mis au point un vaccin à base d'ARN messager qui teste présentement sur des patients qui sont atteints de cancer du poumon. Le cancer du poumon, il faut savoir que c'est le cancer le plus prévalent au Canada, là. Autrement dit, c'est un cancer qui cause... En fait, c'est le cancer qui cause le plus de décès à chaque année. Et on estime que dans l'année qui va venir, il y a plus de 31 000 personnes qui vont malheureusement être diagnostiquées de ce type de cancer. Donc, c'est quand même un sujet très, très important dont il faut parler. Alors, si tu me permets, on va revenir sur l'ARN messager maintenant. Est-ce que l'idée, elle sort comme ça d'un chapeau, là, comme un magicien? Mais pas du tout, hein. C'est pas une idée saugrenue de penser que l'ARN messager peut traiter le cancer, parce que grâce aux avancées qui ont été faites durant la pandémie sur l'ARN messager, ben, il y a entre autres des recherches qui ont été faites pour développer un vaccin anti-cancer qui a déjà démontré son efficacité sur le mélanome, donc un cancer de la peau. Donc, c'est déjà une indication qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec l'ARN messager pour lutter contre les cancers.
Et il y a une nouvelle cohorte de patients, donc les premiers au Canada, qui testent l'efficacité du vaccin ARN en ce moment.
Absolument, exactement. Comme tu l'as dit, ce sont les premiers au Canada, probablement dans les premiers au monde même, qui testent ce type d'intervention-là. Alors, au départ, ce sont des patients qui ont déjà reçu le diagnostic là, de cancer du poumon au stade 2 ou stade 3 et qui ont subi une intervention chirurgicale pour retirer cette tumeur-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on enlève la tumeur, le cancer au niveau du poumon, il va malheureusement avoir des petits amas de cellules cancéreuses qui se seront détachées entre-temps de la tumeur dans le poumon, puis qui vont se retrouver à se promener un peu partout dans le corps. On appelle ça des micrométastases. Puis ça, ben, ces micrométastases-là, ben, ils vont aller se cacher un peu partout, parfois dans le cerveau, dans les os, dans d'autres parties du cerveau, dans d'autres parties du corps. Et ça, c'est comme des petits feux en dormance. C'est-à-dire que il s'agit qu'il y a une situation propice, là, puis ça y est, il pourrait y avoir récidive du cancer. Le cancer va à nouveau se redévelopper. Et ça, pour traiter ça, ben, il faut combiner généralement de la chimiothérapie à l'intervention chirurgicale. Il faut ajouter de l'immunothérapie pour détruire les micrométastases. Et là, ben, on va en venir à l'étude. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là? Ben, en fait, ils ont évidemment prélevé la tumeur. Quand je disais tantôt qu'ils l'ont, ils ont fait une chirurgie pour la retirer, donc ils prennent la tumeur, puis ils vont l'analyser en laboratoire. Puis ils vont tenter de remarquer quelles sont les particularités génétiques de ce cancer-là que la personne a, et quelles sont les petites protéines qui sont propres à la forme du cancer que le patient a. Et quand on étudie ça, ben on est capable de faire donc des ARN messagers, des petites séquences très spécifiques qui vont pouvoir s'attaquer aux protéines là, qui sont propres à la tumeur. Donc, une fois qu'on a nos ARN messagers, ben on va les injecter au patient. Le patient, il va ensuite pouvoir fabriquer les petites protéines tumorales grâce à ces petits ARN-là. Puis ça va faire en sorte que le système immunitaire, ben, il va développer des anticorps pour lutter, ben, en fait, repérer ces protéines-là, puis les détruire, donc détruire les cellules cancéreuses. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec l'ARN messager dans ce cas-là. Et ce vaccin-là, là, on ne peut pas le donner tout seul. On le donne en combinaison avec l'immunothérapie, déjà les traitements qu'on offre aux patients. Ça, là, dans le but, le but dans tout ça, c'est de faire en sorte de pouvoir activer le système immunitaire encore de manière encore plus efficace pour qu'il soit capable de reconnaître les cellules tumorales et les détruire. Alors, les chercheurs en ce moment, c'est ce qu'ils espèrent qui va se produire, puis ça va faire en sorte qu'on va peut-être éviter d'avoir ces petits feux-là en dormance qui vont se réactiver. Donc, on réduit les récidives du cancer, puis bien évidemment, on augmente la survie des patients en ce moment-là, tu vois.
Oui. Les résultats des essais cliniques, donc, ne sont pas encore connus pour le moment, mais ça s'annonce prometteur pour les personnes qui auront malheureusement là, des mauvaises nouvelles dans les prochains mois.
Exactement. Donc, on suit ça de près pour voir quels seront les résultats, mais ce qui est certain, c'est que c'est très encourageant. Ça donnera une autre stratégie pour lutter contre les cancers.
Et maintenant, on passe à un autre sujet, Philippe, la narcolepsie.
Exactement, la narcolepsie. Une maladie qui est généralement peu connue, mais si vous êtes des fins amateurs comme moi de la série américaine Les Simpsons, moi c'est quelque chose que j'écoutais beaucoup durant mon adolescence, là, ben les amateurs vont savoir que Homer Simpson, là, ben il souffrait de narcolepsie. Dès la première saison de l'émission, là, on apprend qu'Homer Simpson est atteint de cette maladie-là, puis si on a en tête l'image de justement Homer qui est assis devant sa console au travail, puis qui s'endort subitement devant son bureau de travail, et là, ça déclenche un incendie dans l'usine où il travaille. Donc ça, c'est l'image un peu cocasse de la maladie, mais pour de vrai, c'est pas jojo, cette maladie-là. C'est une maladie qui est très réelle, et on va en parler un peu. Alors, si tu me permets, la narcolepsie, je vais en parler un tout petit peu, c'est un trouble du sommeil. Un trouble du sommeil qui est caractérisé par des somnolences excessives durant le jour. Donc, ça peut, par exemple, être... La gravité peut varier, là. Certains vont peut-être avoir une espèce de brouillard mental ou un peu un manque d'énergie à un moment donné durant le jour, mais pour d'autres, là, les conséquences peuvent être très dramatiques. Ils peuvent carrément s'endormir. En plein jour, comme ça, assis à la table, là, dans une activité plus ou moins énergique, une activité plutôt monotone, mais pof, ils vont s'endormir, comme ça, bang!
Oui.
C'est pas super le fun, puis on peut imaginer que dans certaines situations, ça peut être même très dangereux là, pour ces personnes-là ou les autres qui sont autour d'eux. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Et aussi, cette somnolence-là, ben ça s'accompagne souvent d'une certaine faiblesse musculaire. On appelle ça des épisodes de cataplexie. Donc, les gens vont avoir un shutdown, excusez de l'expression, mais une diminution spontanée de leur tonus musculaire. Donc, c'est souvent ça qui vient avec. Il y a à peu près une personne sur 2000 en ce moment qui est atteinte de la narcolepsie, mais c'est un taux qui est probablement sous-estimé parce que je le rappelle, c'est une maladie qui est pas très 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 connue du grand public. Fait que peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Mon Dieu, est-ce que je souffre de narcolepsie? » Ben, en tout cas, faut pas tout de suite crier au loup. Là. Faut aller consulter son médecin, mais c'est pour dire là, il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui sont atteints de la maladie.
Oui, parce que les gens pourraient penser là, qu'ils sont simplement fatigués, qu'ils dorment mal, par exemple, et que ce n'est pas donc une maladie qu'on peut diagnostiquer.
Non, absolument. Ça peut prendre même des fois ça peut prendre plusieurs mois avant d'être diagnostiqué pour cette maladie-là. Fait qu'il faut juste se dire, regarde, on ne diagnostique pas nous-mêmes de la maladie. Il faut consulter des professionnels de la santé, c'est certain. Pour terminer mon topo sur la narcolepsie, là, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui permet de guérir la maladie. On peut juste contrôler les symptômes. Puis ça, ben, on le fait avec certains médicaments, des médicaments stimulants ou des antidépresseurs dans certains cas. Fait qu'on arrive à diminuer les effets de la narcolepsie, tout simplement. Et là, j'y arrive. On va parler maintenant de qu'est-ce qui est nouveau. Ben, les dernières années dans la recherche là, ont permis d'identifier que dans les cas de personnes qui souffrent de narcolepsie de type 1, il y a différents types, là, je ne vais pas rentrer là, mais disons que le type le plus courant, c'est la narcolepsie de type 1. Ben, dans ces cas-là, c'est causé par des neurones qui sont détruits, une destruction des neurones. Mais ces neurones-là vont normalement produire une substance qu'on appelle l'hypocrétine. Ça, c'est un neurotransmetteur, donc une molécule chimique qui permet de communiquer entre les neurones, par exemple, dans le cerveau. Et ce neurotransmetteur-là, l'hypocrétine, ben, quand elle se lie à son récepteur, sur la surface des neurones, ben ça va permettre de garder, dans le fond, l'état d'éveil. Je le simplifie en ce moment. Là. C'est comme si on pouvait... On demeure en état éveillé. Alors, on devine une chose. Hein, les personnes qui sont narcoleptiques de type 1, ben ils ont une diminution, ils ont une perte de ce neurotransmetteur-là. Et puis, ben ça veut dire que là, le sommeil s'invite dans les périodes d'éveil. C'est ça qui arrive là, durant le jour. Paf, le sommeil veut se présenter, puis là, les gens tombent endormis, par exemple.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des médicaments en ce moment qui ont été développés pour imiter la fonction de l'hypocrétine. Ça, ben, ils sont présentement à l'étude. Par exemple, je vais juste te donner un seul exemple. Donc, il y a un essai clinique de phase 2 qui porte sur des patients atteints de narcolepsie de type 1. Puis quand on leur donne cette molécule-là, qui imite l'hypocrétine, puis qu'on la donne pendant une période d'environ 8 semaines, ben on observe déjà une amélioration sur les états de somnolence. Ils sont moins présents, moins intenses. Puis quand je parlais tantôt de cataplésie, là, les moments de faiblesse musculaire, ben il y en a un peu moins. Ils sont moins importants, moins présents, si tu veux. Puis ça, c'est comparativement à des gens qui ont reçu un placebo. Donc, des gens qui ont reçu, dans le fond, quelque chose qui n'est pas un médicament, tout simplement.
Oui, qu'on donne un faux médicament, en fait, là, parce que le cerveau peut prendre un faux médicament puis donner des effets secondaires ou des améliorations parce qu'il pense qu'on lui a donné un médicament. Donc, pour être sûr qu'un médicament est efficace en lui-même, il faut être capable donc d'enlever cet effet-là, là, qu'on appelle l'effet placebo.
C'est exactement ça. On veut s'assurer que l'effet qu'on observe, c'est bel et bien le médicament, que ce n'est pas un autre effet qu'on connaît pas très bien, qui est mal compris. Alors, t'as bien résumé ça. Oui, on compare toujours avec un placebo pour être certain que ce qu'on observe, c'est véritablement le médicament qui donne les effets. Tout à fait.
Et on termine avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo avec des outils de développement axés sur l'accessibilité.
Ben oui, exactement. Donc, en quelques minutes, dizaines de secondes, donc une société de jeux vidéo, EA Games, ont mis au point, ils ont déjà des jeux à leur actif, là, les Sims, Madden, puis le jeu FIFA, un jeu de soccer.
Oui.
Donc, ils ont investi pour développer donc des outils qui rendent les jeux plus inclusifs. Par exemple, ils ont mis en place des technologies pour améliorer la reconnaissance vocale, pour générer des paroles plus personnalisées, quelque chose qui pourrait donc venir en aide aux personnes qui ont des troubles de la parole, par exemple. Et ils ont aussi simplifié l'utilisation des technologies de reconnaissance vocale, une chose qui pourrait vraiment aider pour les personnes qui ont besoin d'assistance ou d'aide pour s'exprimer verbalement. Donc, c'est des choses qui pourraient leur aider. Voilà.
Oui, parce qu'on sait que la reconnaissance vocale, en fait, quand on a un défaut d'élocution, c'est vraiment pas facile parce que le robot ne nous reconnaît pas, là, a de la difficulté à nous comprendre. Même pour les gens qui ont une élocution parfaite, là, ça peut être difficile. Donc, il nous vient pour les autres. Donc, effectivement, on a 23 brevets qui sont centrés sur l'accessibilité qui ont été déposés. Oui. Donc, on voit vraiment un marché qui s'ouvre au niveau du développement qui sont axés sur l'accessibilité qu'on ne voyait pas il y a quelques années.
Absolument. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est ça. Donc, ça fait des belles nouvelles. Si tu me permets, je glisse rapidement un dernier point sur cette compagnie-là. Ils ont développé un module externe. On appelle ça un plugin dans le jargon. On l'appelle Iris. Ce module-là, là, il permet d'analyser dans les images du jeu vidéo s'il y a des problèmes de photosensibilité potentielle. Donc, le logiciel, il va tout de suite les détecter. Il va tout de suite informer le développeur de « Hey, attention, il y a quelque chose ici, ça peut amener un problème de photosensibilité. » Et là, le développeur, il peut corriger en temps réel le problème dans son jeu au fur et à mesure qu'il le développe. Donc, pour les personnes photosensibles ou les personnes qui souffrent d'épilepsie, là, ça peut être une super bonne avancée pour leur permettre de jouer à des jeux sans avoir les problématiques liées à la photosensibilité, ce qui est quand même parfois trop présent dans les jeux où tout va vite. Tout est en flash, etc. Fait que c'est une belle avancée. Puis ça, c'est offert gratuitement à l'ensemble de la communauté de développeurs. Fait que c'est des outils accessibles dans les deux sens. Accessibles pour les gens qui vont l'utiliser. Je parle des personnes qui ont besoin de pour lesquelles il faut tenir compte de la photosensibilité. Mais en plus, eux autres, ben, ils l'offrent gratuitement à la communauté. Donc ça, c'est un autre volet d'accessibilité. Rendre ça accessible à tous les autres développeurs. C'est une belle philosophie d'entreprise.
Oui, et puis on rend ça accessible, évidemment, et puis les autres développeurs peuvent ajouter leurs idées et puis développer d'autres choses. Donc, effectivement, c'est un bel esprit de solidarité et de communauté.
Absolument. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce volet-là. On pense à tout le monde, puis on s'aide. Ouais.
Merci beaucoup, Philippe.
Ça me fait plaisir, Isan. Puis à la prochaine.
À la prochaine. C'était Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique.